Les lectures de la maison de la poésie de Rennes.
Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ou vous préférez que je prenne le micro ?
Alors, nous sommes ici à la maison de la poésie.
Donc,
à
nous
Rennes.
Avons le plaisir de recevoir ce soir.
Je ne sais pas danser, mais je danse. Je ne sais pas chanter, mais je chante.
Cette expérience est unique dans l'univers.
Voir à chaque poème jolie de mots,
semblable, similaire.
Et puis on voit comment il se débrouille avec la page.
Que cette lecture nous laisse nus, dépouillés, et ainsi tout disposés à accueillir une autre, un autre en nous, que nous n'aurions pas osé imaginer.
Je ne sais pas vivre, mais je vis.
Lecture. Bernard Noël.
Alors, je commence par une courte introduction à ce livre qui a pour titre « Situation lyrique du corps naturel ». Je survis à force de racines. La chair aurait déjà coulé comme une terre grasse, mais les nerfs la retiennent, les nerfs végétatifs. Les autres sont usés. Quelle floraison blanche autour des os, avec d'épaisses touffes flexibles qui se nouent, tandis que pâlissent les algues que de longues marées viennent plaquer contre les dernières vertèbres. L'eau est lourde et amère, ma soif dévale le canal de la moelle, roulant tout l'imbuvable qui racornit ma gorge. Le silence plane entre les épaules et la mer. C'est le prélude à une nouvelle aspiration des profondeurs. L'œil cherche de nouveaux domaines dans la région du cœur, mais tout végète. Les orbites ont blanchi. Il n'y a plus ni paupières ni larmes. Le sang s'est retiré. Les poumons ne sont que des modes de bulles. Pourquoi penser? Si le cerveau venait à s'allumer, il y aurait encore de la suffocation, puis du vertige, et puis de la succion interne. Tout ce calme est un piège, je le sais. Il ne m'avance à rien de le savoir. Le squelette est lointain derrière ce savoir déformant. L'œil en arrive à tourner sur lui-même. La langue lèche le peu de nuit qui reste entre les dents. Et la bouche demeure ouverte, avide. Tous les gestes imaginables sont au loin, dans la buée de la surface. Je tente une autre attente, mais maintenant mourir n'a pas de fin, ni vivre. Tout ce que j'ai connu est en train de faire de la peau. Mon corps va devenir étroit. Je fléchis quelque part. Je deviens bleu sur les membranes des viscères. Je grimpe à l'arbre des vertèbres. Dans mon crâne trop sec, des perceptions poudroient. Elles s'anéantissent l'une l'autre à toute vitesse. Je suis plein de pelotes d'aiguilles. Il faudrait recompter les jointures, refaire le squelette. Il est trop tard. J'assiste à l'érosion, insoucieux d'ailleurs que tout en moi devienne sable dans les marais du ventre. Et cette mer sans origine, qu'importe. Passé non plus n'a pas de fin. Minute passée, goutte à goutte. Est-il vrai que la pluie n'ajoute ni n'enlève rien à la mer? Oui et non. Toujours oui et non. Les yeux tournent, dedans égale dehors et dedans, il y a dehors. Avais-je 8 ans ou 1000 ans hier? Peut-être l'un et l'autre. Trop de cercles à l'intérieur des eaux, trop de chiffres sur mon arbre. Je ligote mes phalanges comme du bois sec en attendant cette peau neuve. Il me vieillira d'encore 1000 ans, quand j'aurai 8 ans, et puis, Et puis cette mer pleine de sel, pleine de gestes, pleine d'échos. Et puis, battante sans cesse au bord du cratère mouvant. Je ne peux pas tenir le registre des cellules, je ne peux pas. Mais les visages, combien de visages, combien dissous dans la mer ou bien gravés dans les couches de l'os. Il n'y a qu'à regarder l'horizon, avec la chaîne des dents, avec la langue sur laquelle clapote le temps. Mais déjà les algues deviennent racines, les racines deviennent arbres, les feuilles tombent à travers mes yeux et plus tard repoussent dans mon corps. Les visages s'accumulent, demain et hier, inexorablement. Mon squelette blanchit, mais la grille des côtes, en coulant dans le sable, appelle un autre corps. Je lirai la première partie de l'extrait du corps. 1. Les mots crèvent au ras de ma peau. Le regard est fixe. Le buste est un assemblage d'éléments mobiles et d'éléments immobiles. Les gestes se poursuivent à l'intérieur de la poitrine, comme les cercles sur l'eau. Et le cou se prolonge loin dans le corps. C'est depuis l'estomac qu'a poussé l'arbre qui empale ma gorge. Il monte jusque dans mes narines. Un court-circuit coupe le courant des nerfs dans ma nuque. Ma tête se penche vers un lac d'argent lisse qui tout à coup s'éparpille dans l'espace. On me trépane pendant que mes jambes s'allongent, perçant des nuages. D'un côté il fait mal, de l'autre il fait nuit. Entre les deux, une hélice tourne dans le ventre et l'air reflue vers ma bouche. J'ai la gorge pleine de plumes, je crache des cellules. La terre s'affaisse dans mon corps, je suis la terre et l'affaissement de la terre. L'œsophage est le centre immobile de ce glissement. Il n'y a plus ni squelette ni nerfs. Je vois sans voir. La souffrance gîte dans les lézardes qui traversent ce lent éboulement, mais elle ne fait pas mal. Le péritoine se crevasse. Je me peuple de trous d'air. Chaque effort de l'œil crispe comiquement ma gorge. Un autre émerge dans mon ventre sans être venu de l'extérieur. L'os blanchit et le visage s'affaisse sur le crâne troué. Des nerfs vibrent sur des arêtes d'os. Paupières closes, l'œil branle son regard tout au long de la moelle, tandis que des élastiques cinglent le foie et l'estomac. Les dents veulent lyncher la langue. Le cerveau veut déménager car il est là du pâté de cœur. Un boyau ahane un tremblement. Quel orage terrible se prépare parmi des organes extérieurs. L'espace est noir. Les os suent un regard qui les décharne. Les yeux cherchent leurs orbites. Plus tard, la poitrine se rebâtit autour d'un courant d'air. Rire encore, mais sans rire. Et le poids des jambes agrippées à l'une l'autre. Et le sang qui remonte en refaisant le corps. Quelquefois, la chair du thorax s'évapore. Je voudrais croire qu'elle a glissé dans le ventre, mais les mains refusent d'aller voir. Ou plutôt je passe mon temps à chercher mes mains, avec le sentiment d'une urgence douloureuse, comme si quelqu'un allait profiter que me voici à découvert. Plus tard, avec une lenteur horrible, la plèvre sécrète une bouillie calcaire qui va boucher les interstices entre les côtes. La colonne vertébrale alors se détache le long de l'édifice comme une cheminée. et c'est mon dos que je vois. Masse blanchâtre où se désagrègent des cristaux de salpêtre. J'essaie d'en rire, mais rien ne vient de l'intérieur. La coquille s'est vidée. Il y a des perceptions à nerfs, à squelette et à chair. J'avance de l'une à l'autre comme à travers les bandes d'un spectre. Il arrive aussi qu'une perception s'immobilise tout au long du corps à partir des yeux. Elle est alors ce chemin de corpuscule que traversent mes os, ma chair, que rayent mes nerfs. Plus souvent, elle est comme une fibre tendue dans la fibre d'un nerf. Cela se produit surtout dans la moelle épinière, où débute d'ailleurs tout ce qui a trait au ventre. La part la plus inaccessible de moi demeure la poitrine, la texture des poumons. Il y a même entre les selles droites et le foie un espace qui ressemble à un désert. C'est une sorte de trou convexe par rapport au reste du corps. Quelque chose comme le siège du froid, installé à proximité de la chaleur vive des organes. Une mentonnière de douleur, paralysie partout, le nez bruisse, lourdeur soudaine des testicules sous le sexe, remous, circonvolution, vide, vide. La voûte des épaules éclaire l'érosion interne. Tout coule en moi comme à travers le col d'un sablier. Aucun geste n'est pensable. Ils iraient se geler sur la peau ou multiplier le sable de la chute. Vide, vide. Mais les traces. Où sont les traces? Tout l'inconnu ne peut pas baver continuellement en moi sans laisser une trace. Et puisque tout le problème maintenant est de me baver moi-même en moi, jusqu'à condensation de la stalactite interne, autant suivre cette trace. De qui? De quoi? Qu'est-ce que moi et l'autre? Et l'autre de l'autre? La peau, certes, et les organes amarrés, les nerfs, les os. L'organisation. Le poids du soleil retient la terre dont le poids retient. La bouche ne veut pas se retrousser jusqu'à l'anus. L'œil ne veut pas se glisser dans le sexe. Alors chacun tente l'impossible pour jouir indépendamment et ne pas regarder le vide. À l'intérieur, la chute continue. Cette blancheur qui parfois fuse de ma moelle est une arme semblable au rire. Elle gèle ce qui pourrait m'attendrir. Pas de sentiment. Rien que les pulsations rapides de la transparence où, par à coup, saigne le cœur. Le volume, débarrassé de muscles, est pur. Les os s'alignent sur mes flancs comme des signaux de silice. Les articulations ont été calées, colmatées. Je suis droit. Là-haut, ma langue bat au vent. Ma bouche est cette concavité paisible, environnée de voix complexes. À volonté étanche, elle est en soi le seul espace creux par lequel l'étranger peut venir m'habiter ou me traverser. Elle est la porte d'une partie du corps. Le nez, par contre, ouvre et ferme un cycle de chemin. Il me manquait d'avoir dissocié ce qui en moi dépend de la bouche et ce qui dépend du nez. J'avais oublié que tout, pourtant, avait commencé là, par la perception dédoublée d'un courant d'air. L'équilibre se rompt quelque part dans le trajet des nerfs. Le désordre gagne si vite que je ne peux déjà plus savoir où il a commencé. une bulle monte. Il y a un court-circuit à la pointe du cœur, puis le vide se gonfle. Un vide où pend mon estomac douloureux. La partie inférieure de mon estomac. L'autre est venu se plaquer sous mes épaules. On dirait qu'une pyramide blanche s'est renversée sur mon ventre pour l'empaler. La gorge durcit. Elle s'énerve à hauteur de l'aluette et il y a dans tout le corps un grand reflux. Une sorte de panique qui accumule sous les épaules une espèce d'étouffement. Par réaction peut-être, la moelle épinière redevient un rayon lumineux qui fascine mon œil. Le coccyx est atteint avant l'habituelle déperdition du regard dans le ventre. Mais les vertèbres, tout à coup, ne me fournissent plus ce canal parfaitement rond où la perception voyageait instantanément. Je ne localise que des périphéries, des arêtes, des rebords. Toujours un affaissement interne, une sorte de cratère millénaire. Et, partout, une chute sans fin. Une chute autour de laquelle vivent ou survivent les organes mis en sac par la peau. Rien qu'un reste à partir duquel le corps peut toujours recommencer ou se détruire. Mais j'ai peur. Je fume de l'habitude. Je repeins ma peau. Je mets les femmes dans mon œil. Femmes continuelles ou femmes nouvelles. L'une pour anesthésier la sensation de la chute, l'autre pour provoquer cette expiration qui est la remontée du vide dans la gorge et l'espérance du crachat libérateur. Pourtant, il ne s'agit pas d'expulser le vide, mais de le traverser dans le corps. Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps. Et lentement, la moelle fila une pelote de nerfs autour de laquelle les heures vinrent s'égoutter. Ce fut le ventre. L'eau eut alors soif de se saisir et elle condensa la peau. Le mou engendra son contraire et l'os parut. Il y eut un dedans et il y eut un dehors. Mais le dedans contenait son propre dehors qui disait moi, pendant qu'il disait je. L'œil les mit au noir et se tourna vers le dehors dehors. J'eus un visage, un volume, un corps. Je fus un plein qui allait toujours de l'avant. Mais voici que mon œil s'est inverti. Maintenant je vois derrière. Maintenant je suis creux. Et mon corps est à recommencer. Merci. Je me suis dit qu'après avoir lu le premier livre que j'ai écrit, j'allais essayer de lire des fragments du dernier que je suis en train d'écrire. C'est un poème qui se compose de séquences. Chacune de ces séquences se compose de 7 poèmes et chacun de ces poèmes se compose de 17 vers. J'avais appelé ça au début le jardin d'encre, mais puisque ça fait 5 ou 6 ans que ce texte m'occupe, c'est devenu le chemin d'encre. Je vais lire le 1. Et maintenant, c'est encore maintenant, bien que tout glisse. bien que tout s'en aille en laissant sur la peau une traînée. On ne sait ni pourquoi ni en quoi cette chose passante. La gorge est lasse de brasser l'air pour faire un mot. Une chose fourmille, nocturne et sombre, peut-être la fatigue. Il faut que le monde vieillisse encore et se délie de sa limite, comme le corps trouve tout seul l'infini dans le sommeil. Alors il ne sait pas qu'un songe a remplacé la vie, et que tout fait silence pour fêter ce remplacement. Quelque chose remue pourtant dans l'arrière-pays de tête. Est-ce une ombre qui vient, une ombre qui s'en va, ou simplement le monde enfin réduit à sa fumée? Le vent cherche une âme, il croit la trouver sous la porte. En expédiant son souffle dans le noir, mais qui est là? Dans le couloir où la poussière a recueilli des traces. Et maintenant il faut lever le poing et battre la mémoire comme un tapis qui doit brutalement restituer l'image. Et maintenant, c'est toujours maintenant, bien que le visiteur tarde à réparer le cœur qui donnera le rythme du présent. Sait-on comment s'anime la pensée dans ce bruit-là? Un vieux chuchotis remonte les racines des nerfs. Tant de fantômes dans la chair, ils aiguisent l'incertitude. La langue trie son passé au fond de la décharge interne. Mais où est la bouche assez pleine d'oubli pour crier non, à ces lambeaux qu'on pourrait prendre pour des souvenirs? Une phrase, une autre, et l'angoisse dessous pourtant nouvelle. Une lueur tremble dans la syllabe, un éclat d'os, un reste d'avenir usé déjà par la grammaire, qui ne vient pas vers les mots avec l'espoir d'une éclaircie. Et quoi? L'énigme fait de beaux yeux au visage défait? On avait compté sur la règle ou sur la loi ou même sur la justice. Mais comment sentir qu'un organe est un maintenant qui a pris forme et qui la maintient en dépit de la raison et du vocabulaire? Et maintenant, dis-tu, pourquoi la solitude est-elle informe? On aimerait en mouler la substance et la poser devant. Les mots sont faits pour ça, ou peut-être la mort, ou la nuit qui de toute chose s'emprunte et n'en garde rien. On pense parfois à un linceul entrebâillé, une phrase folle, faisant fuir hors de soi toute l'horlogerie des règles. Mais en quoi sont les jours l'un après l'autre tirés du même mouvement, la chose invisible et régulière et si banale que le poème joue son sens à vouloir y manger le temps? Est-ce une langue ou bien un doigt pointé sur l'élevage? De poussière, les mots tracés deviennent aussitôt des ombres, et qui regarde avec un œil lecteur n'a dans les yeux qu'une buée. Dès lors, tout point de vue s'abolit, et voici que maintenant, recule, tombe là-bas, presque sous l'horizon, devient un geste d'adieu dont le cœur refuse l'émotion pour demeurer soi, c'est-à-dire un organe pratique, une simple pompe active, à tout moment au milieu de l'appétit de vivre. Et maintenant il n'y a plus moyen de rapiécer le jour. Tout ce qui promettait une vie meilleure a détourné la tête. Le silence règne du côté gauche et cela met toujours plus de blanc dans la pensée, dans les yeux qui ne voient plus le sens. Le passé est revenu en force, il a changé de nom, il a cassé les vieux jouets sociaux, on en devine encore quelques traces. Petits coups de pinceau qui autrefois furent des mots. Le regard n'y cueille que des restes puis reprend l'air. Il ne sait plus que fut cet acte au fond de lui qui parle. Avec du silence, parfois cela fait un nœud dans la gorge, et c'est la brusque certitude d'une pendaison intérieure. Il faut vivre ensuite, malgré ce mort en soi, devenir le tombeau qui fait semblant d'être un corps ordinaire. On regarde alors sa peau comme le bord d'une misère, et maintenant les images s'y mettent, qui collent les paupières. Puis derrière elle mange toute l'intimité ce peu d'espace où survivait autour du mort un râle de révolte. Et maintenant, où est la porte pour se jeter dans l'avenir? Autrefois, elle était dans la bouche et l'âme y venait seule. Toucher l'âme de l'autre, maintenant des épines de sel, garde les lèvres une rangée de dents supplémentaires. La sortie n'est nulle part, les mains s'obstinent à chercher. S'en vont les yeux fermés toucher la chair des signes d'encre. Trouve des courbes, des élans, les débris d'un message. Crois que ces os d'ombre sont le squelette d'une vérité. Au bout des doigts, la pulpe se fait encore plus sensible. Se veut pareil à un filet de voix, mais la main tout à coup s'engorge et redevient l'organe du silence. La poussière d'une présence pleut lentement à contre-jour. On aimerait croire encore au mystère et y voir s'agiter des traces d'elle ou bien le dernier geste de l'en-deçà, ou pourquoi pas l'un des glorieux mensonges du poète. Mais maintenant il n'y a plus assez de présent pour voir transparaître le rien qui germe sous chaque acte. Et maintenant, chacun s'éloigne dans le mouvement de l'approche, comme font les vers qui dérobent leur sens à mesure qu'il vient. Mais sommes-nous jamais identiques à l'être qui respire en nous? Lui a l'avantage de rester à l'écart d'un visage, de rester tout entier dans son infinitif, tandis que nous allons au milieu du visible en posant notre ombre sur chaque chose et elle attend. Il voudrait faire croire qu'elle a pris la chose dans sa toile, pour qu'une fois digérée, elle soit enfin réellement le mot qu'elle est. Notre ombre fait confiance au vocabulaire, elle aime la langue morte, celle qui met dans la bouche une matière aussi fumeuse. Quand met l'ombre sur nos talons, comment arracher de nous l'insaisissable et provoquer alentour le bruit d'un monde qui s'éteint? Il est temps de replier sa peau et de dire à maintenant, regarde ces lignes, ces taches, ces oiseaux d'encre. Peut-être tout cela ne raconte-t-il rien et pourtant, une vie remue parmi ses plis et son tremblement dit, la présence est un geste qui oriente l'espace. Et maintenant, est-ce le corps qui avait eu la langue ou bien fallait-il qu'existât ce vêtement de chair pour que vienne s'y prendre cette rumeur qui cherche et bouche et nous voilà sur la fin de l'histoire, tout étant consommé non par l'usage mais par la destruction. Le poète amoureux des anciens Grecs nous avait prévenu, disant, des mots qu'ils sont les bâtards misérables du réel et du néant. Cependant, le choix d'être ou de n'être pas ne fut point obéré. Par cette bâtardise, car consonnes et voyelles ont assez de substance sonore, pour offrir au moins un suaire à nos pensées au lieu de la manger. Comme font les images, et maintenant la tête vide et le cœur sec. Chacun abandonne aux fantômes cette paroi au fond des yeux, où l'un poussant l'autre, leur défilé sans cesse dévore la vie. Mieux que jamais ne le firent les maladies, ainsi trépassons-nous, à l'intérieur de nous-mêmes tout en gardant bonne apparence. Et maintenant allons main dans la main au jardin d'encre. L'arbre qu'a planté le pinceau est aussi un arbre de mémoire. Et renaissante, la lecture est là, qui bruit parmi les feuilles.